Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. En 1888, Émile Zola, l'un des plus grands écrivains français, l'auteur de Germinal, du Bonheur des Dames, de La Curée et de L'Assommoir, a 48 ans. Il est riche et célèbre. Mais vous l'ignorez peut-être, il est aussi un vieux monsieur. Il est notamment beaucoup trop gros. Il pèse plus de 96 kilos pour 1m72 et son tour de taille atteint 1m20. Comme il souffre, selon la terminologie qu'on utilise à l'époque, de dilatation gastrique, il s'essouffle rapidement et parfois il s'endort sur une page commencée. Avec les années, Zola s'est laissé aller, il s'est empâté et sans s'en rendre vraiment compte, il a pris un gros coup de vieux. Aux yeux de tous, il semble un homme comblé par la gloire, alors que lui-même se demande s'il n'a pas raté sa vie. C'est à ce moment-là qu'une jeune femme, une certaine Jeanne Rosereau, entre dans sa vie. La jeune Jeanne Rosereau va donner à Émile Zola, qui approche de la cinquantaine, les enfants qu'il n'a jamais pu avoir. Elle va ainsi bouleverser le cours de son existence. Mais Madame Zola va-t-elle laisser son mari vivre comme il l'entend, une double vie? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode, à écouter en deux parties. Première partie, un vieux ménage sans histoire. Le 31 mai 1870, à la mairie du 17e arrondissement de Paris, Émile Zola épouse Alexandrine Mellet. 18 ans plus tard, ils forment un ménage plutôt harmonieux et complice, où chacun éprouve pour l'autre une affection sincère. Ils se donnent de gentils petits surnoms, un petit peu mièvre, Mimi, Loulou chien, Loulou chat. Mais ils sont typiquement l'un de ces couples que l'absence d'enfants fait vieillir prématurément. Ils ne l'ont pas choisi, ils en sont très malheureux. Mais il a fallu se faire une raison. Alexandrine a maintenant 49 ans. La seule perspective qui s'offre à ce ménage, c'est de suivre sans heurts jusqu'au bout son train-train quotidien. Le problème avec Alexandrine, c'est qu'elle a toujours mal quelque part et passe de plus en plus de temps au lit. De quoi souffre-t-elle au juste? Mystère. Crise d'asthme, rhumatisme, crise d'angoisse, dit l'Académie. Mais ne s'agirait-il pas plus simplement d'une forme de dépression ou une culpabilité liée à l'absence d'enfant? Car elle-même a bien eu une fille, il y a 20 ans. Mais avec Émile, il n'y a pas eu moyen.
La stérilité d'Alexandrine attrista définitivement sa vie commune avec Émile Zola, malgré leur affection et leur complicité.
Alors auprès d'Alexandrine, Zola commence à s'ennuyer un peu. Son ménage entre lentement mais sûrement dans la crise de la cinquantaine. C'est la période des regrets, de la lassitude, du renoncement. Sa femme le croit comblé par la gloire, alors que lui-même se demande s'il n'a pas raté sa vie. Il a peur de vieillir, il est frustré, il a le sentiment que le travail a dévoré sa vie. Dans ses lettres, il raconte son corps qui s'en va. Il dit éprouver le besoin d'être aimé. Du jour au lendemain, Zola décide de se reprendre en main. En novembre 1887, il entreprend un régime alimentaire qui exclut le vin, les alcools et les féculents. En 3 mois, il perd 14 kilos. Et la minceur le fait paraître bien plus jeune. Hélas, la crise de la cinquantaine chez Alexandrine ne se traduit pas par une reprise en main, mais au contraire, par un grand laisser-aller. Dans les mois où son mari est au régime, elle prend 6 kilos, alors qu'elle frôlait déjà les 80 kilos pour la même taille que lui. Au moment même où il se sent plus fringant et mieux dans sa peau, sa femme semble avoir renoncé à séduire et reste clouée au lit par des malaises inexplicables. En mai 1888, Alexandrine décide d'embaucher une lingère et femme de chambre. Elle s'appelle Jeanne Rosereau. C'est une jolie femme aux cheveux noirs, aux yeux clairs, à la taille très fine. Et surtout, elle a 21 ans. Alexandrine l'emmène à Médan, dans les Yvelines, où Émile et elle ont une maison de campagne qu'Émile appelle sa cage à lapins. Alexandrine a éprouvé d'emblée une sympathie particulière pour Jeanne, sans doute parce qu'elle se retrouve en elle. Elle aussi était lingère dans sa jeunesse, chez sa tante Marguerite. Et puis comme elle, Alexandrine est orpheline de mère et a souffert du remariage de son père avec une marâtre. Jeanne est discrète, efficace, c'est une perle. Et Alexandrine est enchantée de cette nouvelle employée qu'elle emmène avec elle pour passer les fêtes à Royan. Zola, lui, est en pleine forme. Ses amis ne l'avaient jamais vu aussi heureux depuis des lustres. Plus que jamais, il surveille son poids, qu'il note soigneusement tous les matins sur un petit carnet. Il se fait coiffer, tailler la barbe et troque ses vieilles redingotes contre de beaux costumes sur mesure. Il parcourt la campagne à bicyclette. Il est méconnaissable. Quelques semaines plus tard, au retour des vacances, alors que Jeanne donnait entière satisfaction à sa patronne, elle demande son congé. Alexandrine n'y comprend rien et se montre très déçue. Ce qui se trame dans son dos est pourtant d'une très grande banalité. Saisi par le démon de midi, Émile Zola a couché avec la bonne. Cela se passe le 11 décembre 1888. Plus tard, il couchera aussi ses impressions sur le papier en faisant dire au docteur Pascal, son double dans le roman éponyme.
Il avait une faim dévorante de cette jeunesse, de cette fleur de chair si pure et qui sentait si bon.
À partir de là, plus question pour Jeanne Rosereau de faire le ménage, bien entendu, et pris comme un collégien. Émile Zola l'installe, non loin du domicile conjugal, dans un petit appartement au 66 rue Saint-Lazare, au coin de la rue Blanche. Alexandrine ne se doute de rien. Elle va tout ignorer de cette histoire pendant 3 ans, alors que tout Paris ne bruisse que de cela. Et pour cause, tout à son bonheur, Zola n'hésite pas à s'afficher en compagnie de Jeanne dans les cabarets parisiens. Goncourt, l'un des chroniqueurs mondains de l'époque, fait même courir le bruit qu'Émile se fait, je cite, « restituer des forces amoureuses » par des piqûres chez le célèbre docteur Brown Segar, avant d'aller rue Saint-Lazare présenter ses hommages à Jeanne Rosereau. Vous l'aurez compris, Zola est fou d'elle. Il la couvre de bijoux, lui offre les services d'une femme de chambre et d'une cuisinière, lui fait donner des leçons de piano. Bref, le vrai quinca, bien installé dans la vie, chouchoutant une amoureuse béate d'admiration devant lui et de 27 ans sa cadette. C'est d'une originalité. Pendant ce temps-là, Alexandrine, Madame Zola, poursuit son train-train quotidien. Que son mari soit métamorphosé ne semble pas la surprendre. Elle constate seulement qu'il travaille un peu moins, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Mais elle est un peu à la traîne. Ses migraines et ses sautes d'humeur sont de plus en plus fréquentes. Elle devient chaque jour plus grincheuse. Et même si l'on en croit Goncourt, encore lui, tout à fait acariâtre.
Elle avait l'aigreur qui s'infiltre dans la voix d'une poissarde qui va bientôt vous engueuler.
Émile Zola est condamné à mener une double vie, ce qui n'est pas facile à assumer car il respecte sa femme. Mais rien ne saurait plus gâcher son bonheur, car il vient d'apprendre de la bouche de Jeanne une nouvelle formidable. Il sera bientôt père. Le 20 septembre 1889 naît Denise Rosereau, le premier enfant d'Émile Zola et de Jeanne Rosereau. C'est Zola qui a choisi ce prénom Denise, qu'il avait donné à l'héroïne de son roman Au bonheur des dames. Et pour pouvoir être le plus souvent possible auprès de Jeanne et de leur fille, il choisit de situer son roman suivant, intitulé L'argent, rue Saint-Lazare. 2 ans plus tard, lui vient un fils dont la naissance donnera lieu à un épisode bien connu. Comme il doit partir en voyage dans les Pyrénées avec Alexandrine, au moment même où Jeanne était censée accoucher, Émile Zola demande à son ami, le poète et romancier Henri Séard, de l'informer du sexe de l'enfant par une annonce dans le Figaro. Ils ont tout prévu. Séard doit faire écrire « faisant » pour un garçon et « faisane » pour une fille. 2 heures après l'accouchement, Séard court donc au Figaro avec un petit texte à la main sur lequel on peut lire « Faisant bien arriver ». Jacques naît le 25 septembre 1891. Comme sa sœur aînée, il est déclaré de père non dénommé. La double vie de Zola suit son long fleuve, plus ou moins tranquille, jusqu'au 10 novembre 1891, jour où quelque âme bien intentionnée dévoile le poteau rose à Alexandrine par une lettre anonyme.
Pensez que cet homme dont elle a partagé la vie depuis 28 ans, dont elle n'a jamais douté un seul instant, qu'elle a toujours soutenu, toujours aimé, en qui elle a toujours cru et pu lui mentir pendant 3 ans. 3 ans et 2 enfants.
Comme l'auteur de la lettre anonyme a pris soin de lui indiquer l'adresse de Jeanne, Alexandrine se précipite rue Saint-Lazare, tambourine à la porte, se fait ouvrir. Une fois à l'intérieur, elle cherche fébrilement les lettres de Zola qu'elle trouve dans un secrétaire et brûle sur le champ. Puis les insultes fusent. Emportée par sa colère, Alexandrine aurait même menacé Jeanne de la tuer ainsi que ses enfants. Ulcérée, humiliée, elle s'imagine qu'elle est depuis 3 ans la risée de tout Paris. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Alexandrine Zola n'est pas une épouse trompée comme une autre. Une Adèle Hugo, par exemple, épouse de Victor Hugo, se savait trompée par son mari, mais au moins était-elle la mère de ses enfants? Or, la seule raison sociale d'Alexandrine, c'est d'être Madame Zola.
Sentimentalement, psychologiquement, socialement, de la tête aux pieds, elle est Madame Zola. C'est pourquoi sa réaction va bien au-delà de celle d'une femme trompée.
Écrit Evelyne Bloch-Dano dans Madame Zola. On s'en doute, le malheureux Émile dut passer un mauvais quart d'heure ce soir-là. S'il n'y avait pas ses enfants, peut-être aurait-il été capable de renoncer à Jeanne. Car malgré son infidélité, il reste tout dévoué à Alexandrine. Il lui est très attaché, il a besoin d'elle. Tous deux en ont mangé de la vache enragée dans leur jeunesse et en quasiment 20 ans de mariage. Comment l'oublierait-il? Mais il vient de découvrir à 50 ans le bonheur d'être père et n'est pas prêt à y renoncer. Les mois qui suivent seront très difficiles pour tout le monde. Alexandrine épie les moindres faits et gestes d'Émile, le questionne sans cesse et surveille son courrier. Émile, lui, ne peut plus venir aussi souvent qu'il le souhaiterait voir Jeanne et ses enfants. Il se lamente.
Ma femme est devenue folle.
Et c'est vrai, les scènes de désespoir auxquelles s'abandonne Alexandrine sont tellement violentes qu'Émile doit faire capitonner les murs de leur chambre pour étouffer ses cris.
« Si tu l'entendais hurler !»
écrit Émile à Jeanne Rosereau.
« Je ne la reconnais plus. Elle m'insulte, me soumet à des interrogatoires. Je l'ai même vue se frapper. »
L'année 1893 commence d'une étrange façon. Alexandrine demande à Émile de lui faire rencontrer ses enfants. Jeanne accepte. Car elle pense que si Madame Zola les rencontre, elle cessera peut-être de les considérer comme une sorte d'entité ennemie. Mais alors que les choses auraient pu s'arranger doucement, la crise entre les époux Zola va soudain atteindre son paroxysme avec la publication dans la série des Rougon-Macquart du Docteur Pascal, une transposition romanesque par Zola de sa propre histoire avec Jeanne. Il y est question d'un médecin âgé de 59 ans qui a consacré sa vie à son travail et a oublié d'aimer. Il tombe éperdument amoureux de sa nièce âgée de 25 ans et sa vie bascule. Au fil des pages, Alexandrine a tout loisir de découvrir par le menu les ébats amoureux de son mari avec Jeanne et rien ne lui est épargné.
Corps jeune et frais, peau soyeuse, joie de la virilité retrouvée. Allongement fin de son corps, jambes fuselées, éternel désir à étreindre.
Le 28 juin 1893, Zola écrit.
J'en rêve de cette tresse si tiède et qui sent si bon. Eh bien, cette nuit, je l'avais sur mes lèvres, et elle me parfumait tout entier, et j'étais comme baigné dans tes cheveux vivants.
Et comme si voir son infortune étalée dans un roman n'était pas suffisant, Alexandrine se reconnaît, à la fois dans le personnage de la marâtre, qui envoie une lettre anonyme pour dénoncer la liaison de son fils, et dans le personnage de Martine, la fidèle domestique du docteur, désespérément amoureuse de lui depuis toujours. Autrement dit, dans ce roman, elle ne joue que les mauvais rôles, la méchante, la domestique, l'amoureuse évincée. De la part d'Émile, C'est d'une indélicatesse effarante, d'autant qu'il a le culot de dédier ce livre à sa mère et à Alexandrine. Quelle impudeur, quelle goujaterie! N'aurait-il pas pu épargner à son épouse le récit détaillé de ses turpitudes? En l'occurrence, on ne peut s'empêcher de penser qu'il s'est comporté comme un petit, tout petit monsieur. Heureusement, Alexandrine n'eut jamais sous la main l'exemplaire très spécial du docteur Pascal, dédicacé par Émile à Jeanne, car elle aurait instantanément sorti au mieux son rouleau à pâtisserie, au pire un pistolet.
À ma bien-aimée Jeanne, qui m'a donné le royal festin de sa jeunesse et qui m'a rendu mes 30 ans en me faisant le cadeau de ma Denise et de mon Jacques, les deux chers enfants pour qui j'ai écrit ce livre, afin qu'ils sachent en le lisant un jour combien j'ai adoré leur mère.
Je vous donne rendez-vous dès demain pour la seconde partie de ce récit, au cœur de l'histoire, consacrée à la double vie d'Émile Zola. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. À très bientôt !